Donc, bienvenue à la dernière séance de cette journée sur la maison des sens de l'homme. Donc, juste avant de commencer, parce qu'on a une minute d'avance, un mot concernant cette séance précédente. Je pense qu'il serait intéressant une fois que quelqu'un se penche sur la vision des chercheurs étrangers sur la maison. Parce que ça pourrait être tout à fait intéressant. Juste un exemple, pour des générations de chercheurs allemands, Paris, c'est la maison, et la maison, c'est la porte d'entrée dans la recherche française et internationale, pas uniquement française. Voilà, donc maintenant, on a la séance avec deux intervenants. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Charles, que vous connaissez comme spécialiste de l'histoire intellectuelle, l'histoire comparée, l'histoire des universités. Et si vous voulez savoir un petit peu plus, lisez le dernier ou avant-dernier numéro de la revue Moderne d'Histoire et Contemporaine, où Christophe Charles a publié un bilan partiel d'une vie de chercheur. Et la deuxième partie de la section de la séance, c'est Baptiste Billot, qui est archiviste au grand équipement documentaire de Condorcet, qui nous parlera des archives. Julie Levanier n'intervient pas. Voilà. Donc, à Christophe pour la parole.
Merci. Merci à Maria, merci à Consolim et à Wolf Joran pour leur invitation. Merci également à la Maison des Sciences de l'Homme et à la Maison Sugère de nous accueillir. Et puis, très heureux évidemment de retrouver parmi vous Iner Bruns, grâce à qui j'ai pu, il y a très longtemps, mettre en place un groupe de recherche international sur les universités. Donc, j'ai bénéficié de cette structure de la Maison des Sciences de l'Homme dans ma jeunesse. Et puis, évidemment, Maurice Aymard, qui lui aussi m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Donc, je ne vais pas évidemment continuer sur ce registre des souvenirs, mais c'est vrai qu'on a un peu, pour les gens de ma génération, le sentiment d'être en train d'assister à l'histoire de leur vie, d'une partie de leur vie à travers cette évocation de ces institutions qui nous ont permis de nous former, puisque moi j'avais suivi des séminaires évidemment dans ce qui était encore la sixième section de l'école pratique, et puis ensuite j'ai fréquenté assidûment la Maison des Sciences de l'Homme en tant que participant aux activités de celui dont je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire Pierre Bourdieu, qui avait son centre de recherche, mais qui aussi y a fondé en 1975, on va bientôt fêter le cinquantenaire, donc la revue. La revue Actes de la recherche en sciences sociales, donc fondée au sein de la Maison des Sciences de l'Homme, et d'un certain point de vue, c'est une des thèses que je vais essayer de défendre au cours de cet exposé, je pense, qui reprend. D'ailleurs, le terme même sciences sociales, on a eu le débat tout à l'heure, montre bien qu'il avait opté pour une des lectures possibles de la Maison des Sciences de l'Homme comme lieu de rencontre, lieu de rassemblement entre les disciplines, hein, c'était l'idée fondamentale de sa revue, et surtout lieu d'accueil des chercheurs étrangers, puisqu'il s'attachait à apprendre des textes et à traduire des textes venant des différents pays d'Europe, et voire des États-Unis ou de plus loin encore. Et le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est justement pour illustrer un petit peu cette fonction de creuset de la des sciences de l'homme pour porter des projets hors normes ou un petit peu décalés par rapport aux habitudes traditionnelles de l'université française ou même de la vie culturelle française, puisque je vais essayer d'évoquer, si vous voulez mettre le début du PowerPoint, une revue moins connue qu'Actes de la recherche en sciences sociales, même si elle est évidemment alliée, puisque c'est le même directeur et le même fondateur, une revue donc, qui s'est appelée Liber et qui a été donc, conçue et réalisée à travers l'idée de Bourdieu, mais aussi avec le support, pendant une partie de son existence, de la structure MSH. Donc c'est un peu une défense et illustration des fonctions sociales et intellectuelle de la Maison des Sciences de l'Homme, même si c'est évidemment un objet beaucoup plus limité que les grandes thématiques que nous avons évoquées Donc, quelques considérations préalables. Ensuite, quelle est l'origine lointaine et fondée théoriquement de ce projet de Liber qu'a porté Bourdieu puis son laboratoire? Ensuite, comment ça s'est réalisé pratiquement avec deux phases assez distinctes? Une phase, disons, grand public, ou en tout cas qui essayait de toucher un large public, puis une phase plus limitée, plus académique et plus tournée vers la vie universitaire. Alors, tout d'abord, d'où vient ce projet de Liber chez Bourdieu? Eh bien, je crois que c'est lié d'une part à sa conception des sciences sociales, c'est-à-dire l'idée justement qu'il ne faut pas s'enfermer dans une seule discipline, même si, bon, on le cataloguait comme sociologue, il revendiquait aussi la qualité d'ethnologue et d'anthropologue. Il faisait remarquer que ses premiers travaux avaient porté sur l'Algérie et étaient plutôt d'inspiration ethnologique dans certaines parties, ce qu'on publiait dans son esquisse d'une théorie de la pratique. Il avait également aussi pratiqué un peu l'histoire, puisque son premier livre, pratiquement, Sociologie de l'Algérie, est très largement un livre inspiré par une crise historique, la guerre d'Algérie qui vit aux premières loges, et dont il essaye de montrer les racines lointaines en montrant à travers cette sociologie de l'Algérie l'empilement des couches d'histoire qui expliquent les tensions et les affrontements entre les différentes communautés qui se partagent le territoire algérien. Donc déjà, je pense, dans sa formation et dans ses premiers travaux, l'idée qu'il faut faire travailler ensemble les sciences sociales ou les sciences humaines, ou les sciences humaines et sociales. À ce sujet, je n'ai pas fait de remarques dans la discussion, mais je me souviens très clairement qu'il y avait, quand j'étais jeune étudiant, des petits ricanements quand on parlait de sciences de l'homme. Les gens disaient, oui, alors et les femmes? Et puis, d'autres, on était quand même après 68, et puis il y avait aussi l'idée, quel homme? Est-ce que c'est l'homme occidental? Est-ce que c'est l'homme d'autres parties du monde? Il y a vraiment un homme, etc. Enfin, il y avait quand même une humeur critique par rapport à Sciences de l'homme, et j'ai trouvé que la discussion là était un peu académique, enfin, par rapport à mes souvenirs d'étudiants où on n'était pas aussi entiché de cette expression. Et puis je vous rappelle que deux des grandes figures philosophiques de l'époque, Michel Foucault et Althusser, avaient théorisé l'anti-humanisme, justement pour rompre avec cet héritage d'humanité qui était encore très pesant dans la vieille université des années 60. Voilà, petite fermeture de parenthèse. Alors donc, une série d'expériences de Bourdieu qui le conduisent à l'idée qu'une science sociale doit être une science qui saute les limites entre disciplines artificielles, qui doit aussi s'ouvrir évidemment à l'étranger, puisque lui-même, par sa double formation de philosophe et d'ethnologue de terrain et de sociologue, avait circulé entre ces disciplines. Et puis, il ne faut pas l'oublier, on a souvent tendance à oublier ça, mais ça apparaît bien quand on lit ses travaux, notamment sur la linguistique et sur la langue, notamment l'oralité, l'importance des doubles cultures. Hein, lui-même, venant de la région du Béarn, était très sensible à ce multilinguisme que les populations de régions périphériques comme celle du Béarn étaient obligées de pratiquer, puisque dans la vie courante, on continuait de pratiquer largement le béarnais. Il suffit de lire les premiers articles de Bourdieu sur célibat et conditions paysannes. On voit bien qu'une partie des interviews se sont faites en béarnais et se sont faites grâce au truchement du père même de Bourdieu. Enfin, ça a été étudié récemment dans un ouvrage sur l'enquête sur le Béarn, et on voit bien donc partager plusieurs langues dans le même espace, plusieurs cultures, la culture officielle, la culture légitime de la France républicaine d'un côté, celle dans laquelle on diffuse l'enseignement, et par ailleurs la culture locale et la culture paysanne. C'est aussi une expérience, je pense, qui à moyen et long terme fait réfléchir Bourdieu sur l'importance de la traduction, sur l'importance de ces mélanges de langues et de niveaux de culture qui sont indispensables de maîtriser pour comprendre une société. Donc, toutes ces expériences, je pense, sont des origines lointaines de cette idée qui va être point central de l'Iber, c'est-à-dire faire circuler les textes, faire circuler les livres de différentes langues par la traduction, par la signalétique à travers des textes critiques venus d'un autre pays pour qu'il y ait un regard couplé et que les textes en anglais ne soient pas lus que par des anglophones, que les textes en français ne soient pas lus et compris que par des francophones, mais qu'il y ait vraiment une communauté interlinguistique entre les cultures, que ce soit les cultures littéraires, les cultures académiques ou d'autres formes de culture. Et ça, ça sera le noyau central du projet Liber, vraiment permettre la circulation des pensées, des disciplines et des cultures. Alors, quand est née véritablement, là c'est des prémices, si vous voulez, intellectuelles, mais quand est née vraiment la concrétisation de ce projet de transgresser toutes ses limites, eh bien c'est, je pense, juste au milieu des années 80, dans un moment justement où Bourdieu a atteint au moment de la consécration, puisqu'il vient d'être élu au Collège de France. Ses livres sont déjà assez largement traduits dans les différentes langues européennes, et il termine donc l'ouvrage que vous connaissez, Homo Academicus, qui sort en 84. Alors, évidemment, on peut lire ce livre de différentes façons. La lecture classique, c'est d'y voir une sorte de diagnostic sur l'université française à la veille de 68, puisque le dernier chapitre essaye de proposer une analyse de la crise de 68. Mais moi, je le lis autrement, puisque je pense qu'il y a aussi dans ce livre une critique fondamentale, évidemment, non pas simplement de l'université telle qu'elle était en 68, mais de la culture académique française pour le long terme, puisque même si 68 a secoué beaucoup l'université française, elle n'a pas arraché tous les travers et tous les problèmes de cette université, vous le savez mieux que moi. Et parmi ces travers, il y a notamment cette séparation dont on a beaucoup parlé aujourd'hui même, entre deux types d'institutions, les institutions vouées, dans les termes de Bourdieu, à la reproduction, donc fait partie en particulier la Sorbonne, des centres de l'analyse de Homo Academicus, et puis les institutions, disons, d'innovation ou de recherche, comme l'École pratique des hautes études, 6e section, comme le Collège de France dans une certaine mesure, c'est une lecture un peu biaisée, je trouve, du Collège de France, de sa part, on voit qu'il est parti dans l'analyse, et puis, bien sûr, des institutions comme la Maison des sciences de l'homme. Or, ce qu'il constate, c'est que les institutions de reproduction sont évidemment très ancrées dans la culture française, dans son universalisme et dans sa prétention à être la représentation idéale de l'homme universel, d'où ma critique sur la théorie de l'homme, et par ailleurs, en revanche, les autres institutions qui sont beaucoup plus des lieux où on accueille des représentants de parcours un petit peu décalés, dissidents, qui ne sont pas des personnes qui ont suivi forcément la voie royale des concours, normale agrégation, doctorat, essai, qui n'ont pas forcément non plus des origines nationales pures, qui ont parfois circulé entre des cultures. Et donc, dans cette espèce de confrontation qu'on voit bien dans l'analyse de Bourdieu, de Homo Academicus, on voit aussi en creux la justification de ce que va être un peu le travail de Bourdieu dans sa pratique, non pas de sociologue simplement, mais de ce que j'appellerais sa fonction d'animateur culturel. Évidemment, ça peut paraître curieux d'appeler ça un animateur culturel, mais je pense qu'on peut lire aussi le parcours de Bourdieu comme quelqu'un qui passe son temps à créer des institutions qui sont des institutions décalées par rapport justement à ce modèle centralisé, officiel, académique, qui caractérise si bien la France et en particulier sa capitale. Donc, parmi ces institutions, je citerai évidemment celle que j'ai citée tout à l'heure, l'acte de la recherche en sciences sociales qui se veut une revue non académique, en tout cas qui refuse le modèle de la revue disciplinaire traditionnelle, et puis sa collection où il accueille à la fois des ouvrages français mais aussi beaucoup de traductions, et puis dernière étape, cette nouvelle revue Liber, dont il conçoit le projet donc, au milieu des années 80. Vous voyez, on peut relier cette revue à toutes sortes d'aspects de la trajectoire de Bourdieu et même de sa réflexion sur ce que sont les institutions françaises et en particulier les institutions académiques. Alors, au milieu des années 80, il occupe, vous voyez à travers cette statistique des traductions, déjà une position internationale tout à fait visible. Mais ce qui est intéressant, enfin, je vous mets ce tableau, c'est de voir que, aujourd'hui, il est, je crois, le sociologue le plus cité dans le monde, mais ça ne s'est pas fait de la façon identique dans toutes les aires culturelles. Vous voyez cette expression, en tout cas, dans toutes les aires linguistiques. On voit qu'il y a tout de suite une plus grande réceptivité de la sociologie telle que représentée par les ouvrages de Bourdieu ou de Bourdieu et Tarson dans les pays de langue latine. Vous voyez, le délai de traduction, c'est assez frappant, est plus court dans les pays, disons, du Sud, qui se sentent un peu en position dominée par rapport à la culture française dans la période en question, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Italie. Et en revanche, les cultures traditionnellement dominantes, qui se pensent comme autonomes et qui n'ont pas forcément de leçons à recevoir de la France et encore moins de la sociologie française, qui n'est pas forcément considérée comme la seule légitime à l'époque, il y a un plus grand retard à l'allumage. Et alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais quand on regarde quels sont les livres qui sont traduits avant ou après, c'est significatif sur les thèmes qui sont plus ou moins réceptifs, qu'on peut plus ou moins bien recevoir selon les aires linguistiques. Alors, je ne dis pas que Bourdieu avait dans sa tête ce tableau, même s'il pouvait l'avoir intuitivement, mais je pense qu'il s'est rendu compte que pour que les sciences sociales deviennent de vraies sciences, en tout cas c'était sa grande théorie, il fallait qu'elles circulent véritablement dans toutes les aires linguistiques, et que c'est ça qui fait aussi peut-être la plus grande différence entre les sciences dites naturelles, qui sont naturelles, comme vous le savez, et les autres, c'est qu'elles ont peu à peu construit des espaces linguistiques internationaux, alors soit grâce à des formalisations mathématiques, soit grâce à l'utilisation d'une langue uniforme, et en l'occurrence, langue. Or, les sciences sociales ne peuvent pas, enfin, en tout cas même si certains le font, en particulier l'économie, ne peuvent pas complètement adopter ce modèle de l'unification linguistique, notamment par l'anglais, parce qu'elles sont quand même parties liées, par définition, avec la culture de chacun des pays qui les construisent. Et que quand on traduit tout dans la même langue, on perd évidemment tout ce qui fait une grande partie de la spécificité, de l'originalité des cultures et des structures sociales qu'on y évoque. D'où, pour Bourdieu, comme vraie solution, la traduction et comme projet, non seulement à travers cette nouvelle revue qu'il va fonder, mais même au sein de ce qu'il publie dans Actes de la recherche en sciences sociales ou dans sa collection, la volonté de traduire des livres que jusque-là la culture française a ignorés, mais voudrait, en sens inverse, que les autres cultures et les autres sciences sociales des autres pays soient eux aussi à l'écoute des travaux, pas seulement français, mais enfin des travaux de tous les pays possibles, le plus de pays possibles. Donc c'est vraiment une utopie de la traduction généralisée que Bourdieu voudrait mettre en œuvre à travers ce projet de cette revue Liber. La troisième dimension de ce projet, c'est évidemment l'idée que pour qu'une science devienne véritablement une science, il s'inspire évidemment de toutes ses lectures de philosophie des sciences dans sa jeunesse. Il était un élève de Canguilhem, il était un élève de Bachelard, et philosophe des sciences montrait que la science classique avait fait sa révolution quand justement les idées scientifiques modernes avaient pu circuler à l'échelle de l'Europe et construire leur espace en s'affranchissant des frontières et des interdits venu d'autorités externes. Et donc, il a un peu la même ambition pour les sciences sociales, et donc, ses projets de revue vont dans ce sens. Donc, tout ça, est passé, là, c'est des références où vous pouvez vous retourner pour Donc, ça, c'est dans un séminaire. On peut se demander si, de la même façon, une transformation de l'organisation sociale de la production et de la circulation scientifique, et en particulier des formes de communication dans et par lesquelles s'accomplit le contrôle logique, ne serait pas de nature à contribuer au progrès de la raison scientifique plus efficacement que l'apparition de nouvelles technologies. Donc, c'est l'idée que c'est plus encore que l'épistémologie ou la théorie, c'est la circulation des idées qui doit permettre les progrès de la science, d'où la fonction importante des revues et de revues qui soient véritablement internationales. Alors, tout ça se produit donc au cours des idées et réflexions et préalables, se produisent au cours des années 80, et c'est aussi un moment historiquement important, puisque c'est le moment où le projet européen devient véritablement beaucoup plus large, avec l'adhésion des nouveaux pays, en particulier des pays du Sud. C'est le moment où il y a les premiers craquements en Europe de l'Est, avec le syndicat Solidarność, puis le début de la perestroïka en URSS. Et c'est aussi le moment où il y a une sorte d'affirmation un peu impérialiste des pays anglophones à travers l'adhésion au néolibéralisme et ses conséquences que vous connaissez par la suite. Donc on est dans un moment historique important. C'est aussi un moment historique où Bourdieu, qui jusque-là s'était un petit peu tenu sinon à l'écart, mais en tout cas des positions beaucoup moins visibles au terme politique, s'engage beaucoup plus nettement dans l'espace public. Hein. Un des signes, par exemple, c'est ce numéro qui avait donné beaucoup, où il avait donné un numéro d'acte de la recherche, le 34 en 1980, ce titre un petit peu interpellateur. Et si on parlait de l'Afghanistan, il n'y avait pas forcément de soi dans une revue de sociologie traditionnelle, où dans ce numéro, il fait justement intervenir des spécialistes de l'Afghanistan, des ethnologues spécialistes de l'Afghanistan, pour justement parler de l'Afghanistan autrement qu'on le fait quand on a une approche purement journalistique ou directement politique, donc pour montrer que les sciences de l'homme, les sciences sociales, pardon, ont quelque chose à dire sur des enjeux particulièrement chauds, puisque l'invasion de l'Afghanistan a commencé en 1979. De la même façon, il va... une autre prise de position qui a fait défrayer un peu la chronique à l'époque, il a, avec Michel Foucault, lancé un texte dans Libération en décembre 81 pour protester contre l'attitude un petit peu trop molle, à son goût, de la réaction du gouvernement français, qui était à l'époque un gouvernement socialiste, face à la proclamation de l'état de siège dans la Pologne communiste pour mettre fin à l'expérience de Solidarność. Donc on voit une visibilité et une volonté de s'engager plus visible dans cette période-là également, au moment où justement il conçoit ce nouveau projet. Donc on en arrive maintenant à l'histoire proprement dite de la revue, qui passe par deux phases. Une première où il y a l'idée pas seulement d'internationaliser les contenus culturels et les acquis des sciences sociales, mais aussi de s'appuyer sur des grands organes de presse et non pas de rester enfermé dans le modèle de la revue académique. Alors ça se fait, bon, je ne rentre pas dans le détail, je n'ai pas assez de temps, par une série de rencontres. En particulier, la première rencontre importante, c'est celle du directeur d'une revue italienne s'appelle L'Indici dei Libri, donc c'est une revue un petit peu analogue à la Quinzaine littéraire en France ou Times Literary Supplement en Angleterre, qui donc est une revue un peu à mi-chemin entre le grand public cultivé et les chercheurs. Donc déjà, essayer de sortir de cet enfermement académique. Deuxième rencontre, par l'intermédiaire aussi de ce directeur d'une revue, donc de l'animateur, du TLS, et donc à eux trois, ils vont concevoir l'idée qu'on pourrait construire une revue commune qui permettrait la circulation des livres et des idées entre plusieurs pays d'Europe. Et pour lancer ce projet, il y a donc cette réunion en octobre 85, et avec non seulement des académiques, non seulement des chercheurs de sciences sociales de premier niveau, comme Norbert Elias ou Jürgen Habermas, mais également des hommes de lettres, des artistes, puisque l'idée aussi de Bourdieu, c'est aussi de rapprocher ces différentes catégories qui de plus en plus s'ignorent les unes les autres, ou en tout cas n'ont plus de combat commun, sauf pour des opérations ponctuelles sur un plan politique. Un peu plus loin. Bon, là, c'est le texte où Bourdieu présente en quelque sorte son projet de revue et son projet de regroupement de toutes ses forces. Bon, je n'ai pas le temps de lire tout le texte, mais il y a l'idée d'une revue européenne qui permettrait aux intellectuels de toucher de nouveaux publics et surtout de se parler entre les différentes communautés nationales, mais aussi entre les différentes disciplines. Alors, il va falloir 4 ans pour arriver au projet final, les différentes étapes, donc adhésion d'abord de 3 périodiques, puis Le Monde s'associe au projet. Bourdieu n'était pas enthousiaste au départ que ce soit Le Monde, l'histoire va confirmer ses craintes, et puis arriver donc d'un grand périodique allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bon, là aussi, Bourdieu n'était pas très enthousiaste de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Comme vous le savez, politiquement, c'est plutôt l'équivalent du Figaro que l'équivalent du Monde. Donc, il y avait déjà un décalage politique qui va exister dans certains choix d'articles. J'ai découvert, par exemple, par anecdotique, comme j'ai été partie prenante, ça m'a amusé de retrouver ça dans les archives. Donc, Bourdieu m'avait demandé de faire un compte-rendu d'un ouvrage allemand dirigé par Jürgen Koka qui s'appelle Bürgertum im 19. Jahrhundert. Donc, c'est une grande histoire comparative de la bourgeoisie au XIXe siècle pour essayer de comparer justement les trajectoires des différentes bourgeoisies des pays d'Europe et sortir un petit peu des visions classiques nationales qui dominaient l'historiographie. Et donc, je suis au travail, comme vous allez le faire quand on est jeune et qu'on est obéissant. Et ma première version a été refusée, notamment, paraît-il, enfin, je l'ai su grâce aux archives, à cause de la FA7, parce que j'avais l'air d'être trop favorable à ce livre, et il se trouvait effectivement que Jürgen Koka n'était pas bien vu par la FA7, parce qu'il était plutôt social-démocrate, et qu'il avait participé notamment à ce qu'on a appelé la querelle des historiens dans les années 80, et évidemment il était dans le camp opposé de la FA7, donc de la rédaction de la FA7 trouvait que je vantais trop le travail de Koka et eux étaient beaucoup plus réticents. Alors, on m'a obligé, pour que l'article paraisse enfin, à faire en parallèle un compte-rendu d'un autre ouvrage, d'un autre historien, qui s'appelle Lothar Gall, un historien beaucoup plus traditionnel, qui avait fait l'histoire d'une grande famille bourgeoise. Alors, donc, il y avait deux types de livres. Il y avait un livre qui était plutôt de sociologie comparée historique et l'autre qui était plutôt une grande biographie, saga familiale. Donc, ça permettrait à un public plus conservateur de mieux se reconnaître dans cette histoire de la bourgeoisie qu'une vision trop sociologico-historique comparative. Enfin, vous voyez comment, pour un tout petit détail finalement, l'importance que ça pouvait avoir cet article par rapport à tout ce que les gens pouvaient ou ne pouvaient pas lire, mais ça montrait bien que dans cet équilibre entre des partenaires théoriquement à égalité, il y avait tout de suite des décalages de sensibilité, des tensions politiques ou idéologiques qui permettaient ou ne permettaient pas à certains sujets ou à certains types de livres d'être pris comme objet de compte-rendu. Alors, c'est pas seulement ça qui a expliqué que cette première phase de la revue Libère a fini par ne pas perdurer. C'est des problèmes, malheureusement, uniquement et presque uniquement. Il y a eu des tensions idéologiques, il y a eu des tensions intellectuelles, bien sûr, mais il y a eu surtout un problème économique. Et le problème aurait dû être compris dès le départ, puisque c'était quand même assez aberrant. Il donnait un supplément à ses journaux, comme on fait le supplément livre ou le supplément sport ou le supplément économie, mais c'était quand même un supplément substantiel. Ça faisait une dizaine de pages grand format, et surtout, c'était un supplément qui coûtait cher parce qu'il fallait traduire. Parce qu'il y avait une partie des articles qui étaient tous dans des langues retraduites, qui en allemand, qui en italien, qui en anglais, qui en français. Donc, ça faisait quand même un coût de traduction important. Il fallait payer un secrétariat qui était basé à Paris sous la houlette de Bourdieu, et donc des salaires assez chers. Et puis, il y avait une maquette fallait construire, et qui n'était pas évident, parce que le grand problème des langues européennes, c'est que quand vous traduisez du français vers l'allemand, ça, c'est plus long. Quand vous traduisez inversement du français vers l'anglais, c'est plus court. Donc la maquette ne peut pas être exactement la même pour la mise en page. Du coup, il faut à chaque fois réadapter les contenus des articles à chaque maquette de chaque supplément, d'où des coûts évidemment d'imprimerie. Et puis surtout, il y avait l'espoir qu'on allait attirer de la publicité, sauf que les publicitaires ne voyaient pas qui est-ce qui allait prendre ce supplément avec de la publicité, parce que c'était quand même des articles assez substantiels, des articles assez difficiles, il faut bien le dire, et qui ne sont pas forcément des supports idéaux pour attirer l'œil sur une publicité. Quand on fait le bilan, il n'y a pas eu beaucoup de publicité, donc les publicités étaient toujours insuffisantes pour couvrir les coûts supplémentaires. Et comme ils ont refusé de faire payer un supplément dans les numéros où il y avait ce supplément libre, évidemment, le déficit s'est creusé au fil des mois. Et le premier à lâcher prise, ça a été le TLS, le plus fragile financièrement. Ensuite, ça a été Le Monde, qui est passé par une crise financière dans ces années-là. Et évidemment, les autres grands périodiques ont abandonné, puisqu'il manquait les deux principales langues, l'anglais et le français. Ça n'avait plus de sens de penser qu'on avait un périodique européen avec les deux principales langues qui arrêtaient. Et donc, un échec dans les deux premières années, parce que, sans doute, c'était utopique de penser que ça allait s'autofinancer grâce à la publicité, et surtout qu'on pouvait se dispenser de demander un supplément de prix quand on donnait ce supplément qui apparaissait tous les deux ou trois mois, en plus d'un numéro ordinaire. La première série a duré de octobre 89 à 90, hein, donc c'est pas très long. Ensuite, il y a eu une relance en 91 comme supplément d'actes de la recherche, mais un supplément vraiment encarté dans l'acte de la recherche, donc sans identité véritable. Et puis, à partir de 91, Bourdieu relance sous forme d'un supplément plus autonome et en s'appuyant aussi sur de nouvelles revues, mais alors pas du tout des grands périodiques, comme c'était le cas dans la première version, mais dans des revues beaucoup plus haut de gamme, en tout cas de public limité et plus académique. Et du coup, le grand projet de créer un espace culturel européen qui pouvait toucher d'autres catégories que les chercheurs ou les universitaires ou les gens disons ayant un assez haut niveau culturel, évidemment, du coup, là, cet aspect-là du projet a été évidemment abandonné. Si vous voulez continuer. Donc, deuxième carrière qui commence à partir du numéro 8, septembre 91, et qui va s'arrêter en mars 98. Alors là, pas tellement pour des raisons économiques, mais je crois essentiellement par le fait que Bourdieu était absolument surmené à l'époque. Il avait beaucoup trop de choses à mener de front et il n'arrivait plus à faire face à tous ces engagements de tout type, puisque vous le savez, dans la dernière partie des années 90, c'est là où il a un rôle de plus en plus public et de plus en plus médiatique. Et évidemment, tout ça lui prend énormément de temps par rapport à ses autres engagements plus universitaires ou plus de recherche. Alors ça, c'est une photo de la première page du numéro 1. Bon, vous voyez, je trouve que déjà, c'est pas très engageant. Sans être désagréable avec un éminent prix Nobel de littérature allemand, je trouve que vraiment, là, ce dessin de la tête de Heinrich Böll, c'est pas vraiment un produit d'appel extraordinairement flatteur pour une revue qui se lance. J'ai jamais compris pourquoi on avait commencé par... Alors, la deuxième mouture, là, c'est beaucoup plus modeste. Vous voyez, il n'y a pas de photo de première page, c'est beaucoup plus traditionnel, mais c'est beaucoup plus sobre. Et alors, ça, c'est les dernières versions, dernier numéro. Là, on est revenu au format journal. On essaye un peu de couleur pour être un peu plus attractif. Enfin, ça reste beaucoup plus, évidemment, austère que des
revues culturelles. On est arrivé au bout des 30 minutes.
Oui, bon.
Mais les organisateurs,
je savais d'avance que j'aurais pas le temps, de toute façon. Donc, la dernière partie de mon texte, c'est une analyse de contenu. Et donc, ça sort en partie du sujet de notre journée d'études. Je voudrais donc plutôt évoquer, on peut tirer comme conclusion de cette tentative et surtout justement de la difficulté pour surmonter ces fractures entre les disciplines, puisque finalement c'est aussi un peu le thème de toute notre journée, aussi bien l'école pratique des hautes études 6e section que la maison des sciences de l'homme, leur grand objet c'était justement d'essayer de faire sauter un petit peu ces barrières officielles des disciplines, mais en tout cas au moins de donner des lieux de discussion, des lieux d'échange, des lieux de travail en commun. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu ces institutions personnellement, et je leur en suis extrêmement reconnaissant, puisque ça m'a évité d'être, et par ailleurs, j'étudiais dans d'autres institutions beaucoup plus traditionnelles, que ce soit l'Université Paris 1 ou l'École normale supérieure, où là, au contraire, on était dans des cases et il ne fallait surtout pas en sortir. Donc, c'était quand même des espaces de liberté auxquels je suis très reconnaissant. Alors, cet espace de liberté que Bourdieu avait essayé d'envisager à travers ce type de revue s'est heurté, c'est une évidence, à des obstacles institutionnels. Alors, ce sont des obstacles économiques, on l'a vu avec ce problème du financement d'un périodique, quand il faut faire des traductions, ça coûte cher. Dans la deuxième phase, il a replié en quelque sorte ses ambitions en réduisant les tirages et la circulation, mais il a aussi changé complètement d'économie politique, puisque on va passer d'une économie politique libérale, celle des grands médias traditionnels, vers une économie administrée, puisque Libère fonctionne comment ? Il fonctionne grâce au support de la revue avec de la recherche qui elle-même fonctionne grâce au support d'institutions académiques, que ce soit l'École des hautes études, que ce soit le Collège de France, ou que ce soit la Maison des sciences de l'homme qui aide à de la recherche à vivre. Et puis, il va passer une partie de ses années 90 à chercher des subventions auprès de grandes institutions, ou des grandes institutions comme la Caisse des dépôts et consignations, qui va l'aider en lui donnant des subventions. Il va ensuite solliciter la Commission européenne, il va obtenir aussi un programme de soutien au titre de la circulation culturelle en Europe. Il va aussi solliciter le CNRS, parce qu'il y a eu dans les années 90 un projet qui s'appelait Intelligence de l'Europe, et ce projet permettait de financer des rencontres, des colloques, et de faire, il utilise ces colloques et ces rencontres pour mettre au point des numéros spéciaux de la revue Libère consacrée à tel ou tel pays, et donc ça permet de faire venir des spécialistes de différents pays pour traiter d'un pays européen. Donc, vous voyez, on rapproche un petit peu de ce qu'est la fonction de la Maison des sciences de l'homme en tant que lieu d'échange et de rencontre. Donc, on voit bien que pour construire une revue de type international, de type européen, on est soit pris par la logique de l'économie de marché, et il faut évidemment là vendre un produit qui soit vendable à large public, et évidemment pas évident pour ce type de sujet, soit se replier vers des soutiens institutionnels d'une économie très largement fondée sur les ressources officielles de l'État. Et donc là, on est un petit peu dans une sorte de difficulté, et personnellement, je dois dire, je me suis heurté à ce problème aussi parce que nous avions un projet de faire un livre sur l'Europe avec un certain nombre de collègues, et évidemment, les éditeurs, comme toujours, vous le savez, souhaitent avoir des sous, et notamment des subventions officielles pour atténuer leurs coûts de production. Et quand nous avons essayé de solliciter les institutions européennes, on nous a expliqué que l'Europe n'était pas là pour financer des livres, ça ne contribuait pas à la culture, les livres, on est un peu étonné. Elle était là pour financer éventuellement des recherches qui ensuite pouvaient donner des livres. Mais si le livre était déjà fait, c'était plus pour eux. Bon, j'ai trouvé le raisonnement un peu bizarre, mais ça prouve bien quand même qu'il y a dans notre système d'institutions, qu'elles soient nationales ou internationales, quand même des trous dans la raquette et une vision quand même un peu statique de ce que doit être une dynamique culturelle pour que la culture circule au niveau de l'Europe. Alors, je terminerai en revenant au héros de cette histoire, puisque il me semble qu'il y a quand même une assez grande cohérence entre ces différents projets que Bourdieu a portés et que j'ai cités au cours de cet exposé, une cohérence aussi par rapport à sa conception des sciences sociales en tant que sciences qui doivent atteindre la maturité par la circulation internationale et par l'échange, et non pas par la domination d'une science particulière, que ce soit la science sociale états-unienne ou la science sociale française, donc une volonté de sortir de ces impérialismes de pays dominants qui a souvent caractérisé certains paysages intellectuels dans certaines disciplines. Alors, nous sommes toujours devant les mêmes problèmes, il me semble. Peut-être que l'Iber est arrivé trop tôt, que peut-être qu'avec Internet aujourd'hui, ça serait beaucoup plus simple finalement de faire cette circulation et ces échanges que ça ne l'était à l'époque. On en était encore à se servir de téléphone et de fax. Ça m'a beaucoup frappé dans les archives de l'Iber que j'ai consultées, cette accumulation de fax pour échanger la moindre chose, que ce soit les articles, que ce soit les critiques sur les articles, que ce soit les corrections, etc. Ben, aujourd'hui, évidemment, avec Internet, nous n'aurions pas tous ces coûts, parce que les fax, ça coûtait quand même relativement cher. En tout cas, j'ai vu ça dans les comptabilités, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Mais en même temps, vous avez aussi la contrepartie aujourd'hui, c'est que nous avons un paysage de la recherche beaucoup plus cadré, hein, avec toutes ces agences qui nous intiment de faire telle et telle chose, de programmer tel et tel type de sujet parce que c'est des sujets qui sont dans l'air du temps, etc. Et il y avait quand même, dans ces années 80-90, encore une volonté de s'affranchir de ces injonctions venues d'en haut, même si, bien sûr, les moyens n'étaient pas aussi fastueux qu'ils peuvent l'être quand on décroche une ANR. Donc, nous sommes toujours devant des problèmes similaires. Je pense que la circulation, moi, c'est ce qui me frappe dans la discipline que je connais le mieux, la circulation des livres est quand même ce qui pâtit le mieux, le plus. Les traductions sont quand même très minoritaires par rapport à la masse des productions. Ces traductions sont très déséquilibrées. On traduit de l'anglais, mais on traduit très peu de l'allemand, on traduit très peu d'italien, on traduit très peu d'espagnol. Donc, on a une vision très partielle des historiographies. La plupart de nos collègues ne lisent pas les langues étrangères, ou en tout cas n'ont pas le temps. Et donc, je crois qu'il y a encore là un chantier qui n'a pas été résolu, enfin, en tout cas, un problème qui n'a pas été résolu. Si on veut que, voyons ce que pensait Bourdieu, l'internationalisation aille plus loin dans ce domaine des sciences humaines et sociales. Merci.
Merci à vous, Christophe, pour cet exposé. On va aborder le dernier thème, donc les archives de la MSH, donc là, retour à l'empirie, au concret.
Oh, mais c'était très concret.
Oui, c'est très concret, excusez-moi. Dans les bases. On va descendre dans les caves, là, avec Baptiste Billot, donc je vous donne la parole.
Merci. Alors, l'ambition de cette présentation sera de faire un état très général des fonds d'archives de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, dont une partie a été déposée à l'UMATEC du campus Condorcet. Donc, présenter aussi un rapide historique et contexte de leur collecte et de montrer comment s'articulent et complètent d'autres fonds d'archives conservés pour certains également à l'UMATEC ou dans d'autres institutions et voir comment cette articulation peut illustrer des dynamiques institutionnelles et savantes. Puisque parler des archives d'une institution, ce n'est pas juste faire une liste à la Prévert des fonds d'archives. Fonds d'archives ne sont pas toujours, d'ailleurs, on le verra, ils ne sont pas toujours organiques. Il y a un terme archiviste pour dire de parler de fonds d'archives qui recouvre exhaustivement l'activité d'un chercheur ou d'une personne ou d'une institution. Parler des archives de la Fondation, c'est également réinterroger les moments de formation de ces objets, de ces documents pour permettre leur historicisation. Pendant longtemps, la Fondation n'a pas eu de service d'archives ou d'archivistes professionnels. C'est une mission, la mission archive a été créée en 2010 dans le cadre du déménagement des bureaux et des équipes qui étaient installés au 54 boulevard Raspail et donc qui avaient dû être déménagés en vue du désagrémentage de l'immeuble. Voilà, donc il s'agit là d'un contexte de sauvegarde d'archives, de collecte d'archives dans un contexte d'urgence logistique dans lequel enfin, dont les archivistes sont assez familiers. Cette mission d'archives n'a pas été intégrée aux services généraux, à la direction des services généraux, comme c'est souvent le cas dans des institutions. Elle avait été insérée au sein du pôle bibliothèque, qui a joué un certain rôle par la suite dans la collecte des fonds d'archives, puisqu'un certain nombre de fonds de chercheurs reçus par la F Fondation ont été reçus par le biais de relations d'amitié entre des documentalistes et des chercheurs, ou par le biais de dons de bibliothèques de chercheurs à la bibliothèque de la Fondation, et donc les archives venant avec lui. Et donc, en tout, lors des déménagements de 2010-2011 et dans les années suivantes, c'est plus d'une centaine de fonds d'archives qui ont été collectés et qui sont très hétérogènes en termes de volumétrie et de contenu. Ces fonds d'archives, cette collecte avait été accompagnée d'une série d'entretiens individuels avec beaucoup d'acteurs de la Fondation, ce qui avait permis de collecter des données relatives au contexte de production, d'évaluer le volume de documentaires. C'était aussi l'occasion de sensibiliser les personnels de la Fondation à la question de l'archivage, de leur fournir des conseils méthodologiques. Ceci est un élément important ensuite pour les archivistes pour récolter des informations qui vont leur permettre un peu d'écrire convenablement les fonds d'archives. Et puis, c'est également l'occasion pour les personnes, enfin les membres de la Fondation, de parler de leur histoire, de parler de leur archive, de leur relation à la Fondation. Pour faire un état des différents types d'archives de la Fondation, on peut commencer par les archives institutionnelles, dont les archives de la gouvernance. Il s'agit des archives des différentes instances statutaires et représentatives des personnels et des personnels, les archives des secrétaires généraux, ainsi que les papiers des différents administrateurs et présidents de la Fondation, Fernand Braudel, Clément Seller, Maurice Aymard, Alain Diribarne et Michel Liburka. On inclut également les archives institutionnelles, les archives des services en soutien aux activités scientifiques, donc des services qui aident notamment à la diffusion et à la valorisation des savoirs, et également des archives de programmes de recherche et en appui à la recherche en SHS qui avait été financé par la Fondation et qui s'articulait autour de grands ensembles comme la coopération internationale, des recherches thématiques et des études avancées. Un deuxième type d'archives, ce sont les fonds de chercheurs. Monique Morazé, Charles Morazé, Georges Hopt, Mathilde Dogan, Annie Duchesne, Geneviève Guittel, Georges Théodule Guilbeau, Robert Bonneau, Serge Moscovici, Colette Capitan, Pierre Ansart, Michel Ansart d'Ourlan, Pierre Bourdieu. Alors, il s'agit des collections tirées à part de Pierre Bourdieu qui avait été donné à la bibliothèque de la Fondation. Les archives de Pierre Bourdieu ayant été collectées, elles, par le PHE, enfin, elles ont été données à l'IMATEC, mais via le PHE. Jutta Scherer, Elisabeth Alest, Michel Liborca, Jean-Luc Évard, Christiane Vauvy, Maurizio Catani, Nicole-Claude Mathieu et Maurice Imbert. S'ajoutent à cela des archives d'associations qui avaient été actives dans le périmètre de la recherche en sciences humaines et sociales, qui avaient confié leurs archives à la Fondation. On peut y noter l'association France-Union indienne et le Centre international de coordination des recherches sur l'autogestion, le CICRA, et un sont d'une personnalité hors académique, qui est Marguerite Pichon-Landry, qui avait été une militante féministe. Donc un fonds d'archives qui avait été confié à la bibliothèque en 2012. Dans le cadre du projet de l'IMACA et du campus de Condorcet, une sorte de partage avait été fait entre les institutions partenaires du campus et l'IMATEC, où, en somme, les établissements conservaient leurs archives institutionnelles et l'IMATEC, donc c'était à l'époque le grand équipement documentaire, recevait en don parce que, donc, par exemple, la fondation et les autres institutions restent propriétaires de leurs archives et l'UMATEC, le rôle du MATEC est un rôle de responsabilité scientifique, de valorisation et de communication de ces fonds. Et donc, les archives données au GED, donc actuellement UMATEC, sont les archives dites scientifiques, archives de chercheurs, bibliothèques et cabinets de travail de chercheurs, matériaux pour la recherche et données de la recherche, comme les documents d'enquête sociologique. Mais dans les faits, cette répartition n'est pas toujours aussi claire. Par exemple, dans les archives de l'AFM Message déposées à l'UMATEC, se trouvent des archives de revues et de services de soutien à la recherche, comme le centre de calcul. Donc, on aurait pu considérer comme entrant plus dans le cadre des archives institutionnelles et administratives. Et dans les faits, on trouve aussi beaucoup d'archives qui sont mixtes, notamment en particulier les archives de Fernand Braudel, qui sont à la fois ces archives de chercheurs, mais ces archives aussi en tant qu'administrateur de la Fondation. Et donc, ces archives ont été déposées à l'UMATEC, mais on y trouve aussi des archives administratives. Alors donc, on revient à la deuxième partie sur l'articulation entre ces archives et d'autres fonds et d'autres institutions, pour souligner des réseaux de recherche. Ce sont tout d'abord des réseaux, des relations entre institutions, puisque les sciences sociales en France avaient largement élu domicile dans des institutions un peu périphériques ou à l'université, donc le Collège de France, les écoles normales, le PHE, le HESS et donc la Fondation. On voit là, il y a un éclatement institutionnel qui s'est opéré. Et lié à la Fondation, il y a donc deux autres institutions. Tout d'abord, la sixième section de l'EPHE, qui en est l'origine, donc créée en 1947 par la via de la rencontre de Lucien Febvre, Fernand Braudel et Charles Morazet, et dont les archives se trouvent aux archives nationales. Mais qui peuvent également être complétés par les archives de Louis Velay et de Clément Seller qui se trouvent à l'EHESS. Donc Louis Velay qui était le secrétaire général de la sixième section et Clément Seller qui était donc pour sa partie pour la période des années 50 et 60 durant laquelle il était le responsable de la direction des arts culturels à la sixième section. Pour ce qui est de la création de la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, comme je l'ai dit, les archives qui concernent cette création se confondent avec le fonds Fernand Braudel. On peut aussi mettre en lien avec cela, avec les archives de la direction de Jacques Le Goff, de la sixième section, puis de l'EPHE, qui ont été déposées également aux archives nationales. Et donc, ils sont des archives qui illustrent un peu la transformation de la séparation, la scission de la sixième section de la Fondation. On peut remarquer, alors, les archives de Fernand Braudel, il faut souligner qu'elles sont en plusieurs instances. Donc, il y a le fonds qui a été déposé à la Fondation. Il y a également un fonds de correspondance conservé à l'Institut de France. Ces cas de dispersion, d'éclatement de fonds d'archives, de personnalités, d'institutions est un, cas qu'on retrouve assez fréquemment, un exemple particulier et révélateur, c'est ce qui concerne Serge Moscovici, qui avait été donc Serge Moscovici, spécialiste de psychologie sociale et le directeur d'études en 1964 et fondateur en 1935 du groupe d'études de psychologie sociale. Il viendra du laboratoire de psychologie sociale de l'HESS et qui avait été fondateur également en 1976 de l'un des premiers réseaux européens de recherche en psychologie sociale, le laboratoire européen de psychologie sociale, dont les activités consistaient à inviter des chercheurs étrangers et à animer des séminaires internationaux sur cette discipline. Et donc, on trouve là, en fait, il y a les archives liées directement ou indirectement à Serge Moscovici sont divisées en trois fonds d'archives. Le fonds proprement Serge Moscovici, qui fait partie des fonds déposés par la Fondation. Les archives du laboratoire européen de psychologie sociale, qui a été également déposé à l'UMATEC. Parmi les archives des programmes de recherche. Et il y a les archives du laboratoire de psychologie sociale qui, eux, font partie des fonds déposés à l'UMATEC par le HESS, mais dans lesquels on trouve aussi quand même des archives de Serge Moscovici, d'archives de travail. D'autres exemples, alors, il y a aussi des exemples qui sont liés à des accidents archivistiques. Par exemple, l'essentiel des archives de Charles Morazet sont pour partie du fonds Charles Morazet déposé par la Fondation. Mais on trouve aussi des reliquats de ces archives dans le fonds Geneviève Guittel, qui était une mathématicienne proche du couple Morazet, qui avait fait des Morazet ses légataires. Et ces papiers avaient été regroupé avec les archives de Charles Morazet, avait été séparé plus tard. Et dans les différents déménagements de ces archives, puisque les archives Morazet avaient d'abord été confiées à la bibliothèque de l'Université technique de Compiègne avant de rejoindre la Fondation des Messages à Paris. Donc, dans ces déménagements, qui s'étaient effectués en plusieurs étapes, il y a eu sans doute des mélanges, des erreurs. Et donc, on trouve quelques éléments d'archives de Charles Morley, donc notamment de la correspondance, des textes qu'il avait rédigés pour la radio ou des textes de communication à des séminaires. Il est assez peu probable qu'il ait fait donc ses papiers à Geneviève Guittel. Et un autre élément, et donc un autre exemple, c'était donc que j'évoquais, c'était Clément Seller, donc dont on a les archives en tant qu'administrateur de la MSH et les archives à l'EHESS en tant que directeur de la division des aires culturelles. Donc, et un fonds d'archives qui illustre très bien la mise en place des aires culturelles à la sixième section dans les années 50 et 60 et les relations de Clément Seller avec les fondations américaines dans ce cadre. Et donc aussi également pour le processus de création des centres de recherche et de documentation sur la Chine, l'Inde, la Russie, etc., dont a parlé aussi Johanna. Et donc on peut relier la façon dont la fondation via Clément Seller a soutenu la création de ces centres de documentation. Ces centres de recherche peuvent être liés au fait qu'on va conserver, on retrouve les fonds d'archives de plusieurs centres de recherche et de documentation dans les archives conservées à l'UMATEC. Donc, par exemple, on a les archives du CERSEC et du CETOBAC de l'EHESS, qui sont deux institutions qui sont des héritages du centre russe qui avait été créé par Alexandre Bennigsen. Et dans d'autres institutions comme le PHE, on retrouve aussi des centres d'études et de documentation sur les aires asiatiques qui sont constitués sur le même modèle que les centres centre de recherche de la sixième section, donc, qui sont à la fois centre d'études et de documentation, et dont l'UMATEC conserve les archives. En guise de conclusion, je souhaiterais souligner quelques points. Le premier point, que les archives des sciences sociales, qu'elles soient utilisées pour par les chercheurs dans une perspective d'une histoire des disciplines ou pour être visitées pour produire de nouvelles connaissances, ces archives sont en grande partie tributaires des politiques d'archivage et de patrimonialisation, de sélection des archives, de la recherche qui ont été réalisées souvent en fonction d'auteurs consacrés de certaines thématiques. En effet, les archives ne sont plus uniquement des greniers à fait pour l'histoire. Elles sont considérées en elles-mêmes comme des objets de recherche, puisque la notion d'archive englobe à la fois le document, les séries, les institutions qui les conservent, et toutes les opérations qui mènent à leur classement, leur conservation et leur transmission. Les archives sont le fruit de deux temporalités, le moment où elles sont produites, le moment où le document est produit, et toute la chaîne de transformation de ces documents en archives par leur transmission, leur sélection, leur conservation, le classement et l'indexation de ces documents dans des fonds d'archives déposés dans une institution. L'archivage fait donc partie de la critique des sources, il ne se réduit pas à la critique des documents, et les archives des sciences sociales n'en font pas exception. Les documents produits par les chercheurs ne deviennent des archives qu'au terme d'un processus qui épouse des logiques personnelles, disciplinaires, institutionnelles et mémorielles. Ils méritent d'être étudiés en tant que tels. Un deuxième point qui peut être souligné en conclusion, c'est un paradoxe qui est que les archives, les fonds d'archives sont très personnalisés. On a le fonds Clément Seil-Heller, le fonds Fernand Braudel, alors que la sixième section et la fondation se voulaient être des lieux centraux pour la pratique du travail collectif. Et ils avaient fait du travail collectif et l'interdisciplinarité le socle de leur identité. Donc, il y a un besoin, il y a un travail à faire pour déjouer une sorte d'illusion biographique. C'est que la tendance à personnaliser les fonds d'archives a tendance à faire disparaître les personnes qui travaillent auprès de certains chercheurs, les personnes qui travaillent auprès des responsables d'institutions. Un deuxième paradoxe, c'est que la fondation se voulait une institution support, donc qui n'était pas la recherche elle-même, mais qui aide à la recherche. Et en fin de compte, par le hasard des collectes liées à l'histoire de la bibliothèque de la fondation, on a finalement beaucoup de fonds de chercheurs, proprement dit, dans les archives de la fondation. Donc des archives qui concernent la construction d'un savoir, pas juste l'animation du savoir et de la recherche, mais la construction du savoir elle-même. Et donc, le dernier point que je voudrais souligner, c'est que donc, le travail des archivistes sur ces archives, sur ces fonds d'archives, est de documenter leur histoire le plus possible, documenter l'historique de leur dépôt, de leur tri, des modifications qu'ils ont pu connaître, pour pouvoir essayer d'articuler ces différentes entités, personnes, chercheurs, institutions entre elles, et pouvoir mieux valoriser ces fonds d'archives.
Merci beaucoup à la fois pour ces informations sur ce qui est dans les archives de la maison que vous dirigez ou co-dirigez, et pour les pistes de réflexion. Je remercie encore une fois très chaleureusement les deux intervenants de cette troisième séance et je passe la parole à Pascal Bullion qui va clôturer la séance à la place d'Hélène Velasco-Gracier.
C'est bien. Bonsoir à vous. Donc, Pascal Bulléon, directeur de recherche du CNRS et membre du directoire de la Fondation. Mais je vous présente les excuses d'Hélène et en même temps, j'avais prévu d'être là, donc c'était bien. Le ministère, ce genre d'obligation pour la Fondation. Il aurait aimé être là et veuillez bien l'excuser. Je n'aurai pas l'outrecuidance de commenter ce que je n'ai pas vu, évidemment. Ce serait absurde. Juste vous pointer deux, trois choses. La première, mes plus vifs remerciements à Martial Consolini et à vous, d'avoir eu l'idée de, je crois que c'est comme ça que ça s'est passé, de proposer ces idées dans le cadre de ces événements qui vont tout au long de l'année égrener les 60 années de la Fondation. Donc, merci à vous d'avoir eu l'idée, d'avoir organisé cela. Ce que j'en ai vu, je n'en doutais pas. J'ai déjà eu des échos de la matinée aussi. C'était forcément une réflexion stimulante à multiples aspects dont je ne comprendrai rien. Si ce n'est pour dire que je pense, sans qu'on en ait vraiment tracé les choses, que à l'occasion de ces 60 années, cet anniversaire, on va prendre l'initiative, on en reparlera à une heure, mais de rebondir à l'initiative que vous avez eue, peut-être pour prolonger sur certains aspects. Et je me souviens d'ailleurs que dans la Société des Amis du Anime, c'est un sujet qui est venu dans les discussions à une séance il y a 6 mois, je crois. Hein, et comme les urgences de premier rang sont satisfaites, que beaucoup de choses sont en route, je crois que c'est un bon temps point de vue de la réflexion intellectuelle, de la transmission, très clair dans une discussion que j'ai entendue, dans la façon de conserver un héritage intellectuel, de l'analyser, les revenir. Donc, je pense que sans qu'on ait tracé des choses, on prendra des initiatives. La deuxième chose que je voulais pointer, je sais que ça n'a pas été l'objet de vos discussions, mais je voulais donner une petite échappée là-dessus. Il se trouve, la vie scientifique est ainsi faite que j'ai en charge le réseau des 22 MSH. Parce qu'il y en a 22. Qui toutes, au fur et à mesure de leur création, ils ne sont que dans les années 80, pas plus tôt, sont totalement inspirés par l'esprit du projet impulsé d'abord par Fernand Braudel et puis ensuite vous avez décrit. D'une part, totalement animé de cet esprit et ayant développé plus spécifiquement tel ou tel aspect au fur et à mesure avec des différenciations sur les endroits, mais contrairement à une légende, très peu lié à des initiatives propres de la MSH de Fernand et développées, bien sûr. Il y a eu des discussions, le collègue archiviste en trouvera des traces, donc, ça a montré dans des discussions de conseil d'administration, etc. Mais l'impulsion n'est jamais venue, le sujet n'est pas celui-là. Mais par contre, le cousinage est extrêmement important et l'inspiration est essentielle. Et puis, elles ont vécu et continuent de vivre leur propre vie et les liens sont pour beaucoup retissés. Et le troisième point que, donc je voulais dire ça pour dire à quel point le projet intellectuel était d'une part inspirant, d'autre part c'était ancré dans une réalité absolument nouvelle, une valeur renouvelée même de l'enseignement supérieur et de la recherche français, et que ce modèle-là, celui qui a été créé, inspiré, mais différent, est totalement unique dans le paysage, si ce n'est européen. Bien sûr, il y a des institutions pluridisciplinaires, interdisciplinaires dans d'autres pays, vous les connaissez les uns les autres, certaines plus, certaines. Il n'y a pas quelque chose de cet ordre structuré, installé, etc. Et le troisième point que je voulais souligner au moment où vous finissez votre journée d'études, c'est que le directoire dont je fais partie, nous trois, lorsque nous avons pensé une réorientation et un envol stratégique de cette fondation, nous sommes extrêmement attachés à retravailler l'héritage intellectuel du projet initial, passer à la toile d'Emery de la réalité du paysage de l'enseignement supérieur recherche français d'une part et international d'autre part. Et que le projet qui se développe actuellement avec quelques succès n'est pas du tout éloigné de l'inspiration d'il y a 60 ans sur un certain nombre de points. Et je ne vais pas les développer, c'est de l'ordre de l'affirmation, parce que je ne suis pas de le faire, mais c'est pour vous dire à quel point les réflexions comme celles que vous avez emmenées aujourd'hui, non seulement ont d'intérêt du point de vue de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la constitution du tissu intellectuel de telle ou telle période, mais vit encore fortement dans des dispositifs importants dont la Fondation a la charge, qu'elle impulse, qu'elle met en relation aujourd'hui. Donc voilà les deux, trois points sur lesquels je voulais insister en venant vous voir ce soir.
Merci Pascal d'avoir fait le lien entre le passé et l'avenir, et j'espère qu'on aura l'occasion dans le courant de l'année de reprendre ces questions et de les retravailler. Merci à tous.